monde occidental traverse une crise économique majeure, en marge du monde économique traditionnel, le secteur de l'économie sociale et solidaire se développe, notamment en région Nord-Pas-de-Calais. Autour de la table, pour nous aider à appréhender cette question,
Véronique Branger, directrice de l'APES, acteur pour une économie solidaire.
Florence Janicatrice, professeure d'économie à l'Université Lille 1.
Antoine Détourné, délégué général de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Nord-Pas-de-Calais.
Alors tout d'abord, un éclaircissement préalable. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ?
Donc au niveau de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement d'une part avoir des activités économiques qui répondent à des besoins fondamentaux et qui essayent d'avoir des pratiques d'économie sociale et solidaire, telles que la gouvernance démocratique, le fait de dire attention, on fait des bénéfices, mais où est-ce qu'on les réinvestit ? D'ancrage territorial ou encore d'activités socialement utiles. C'est bien ce qu'on disait sur la réponse aux besoins fondamentaux, comment on peut travailler sur la question de l'alimentation, de la culture, du logement, un différent nombre de secteurs d'activité qui sont extrêmement importants pour les habitants.
L'économie sociale et solidaire, c'est au fond une double définition qui se complète et se renforce. La première, elle est un peu statutaire. Elle laisse entendre que font partie de l'économie sociale et solidaire les organisations qui sont de type mutualiste, de type coopérative et puis relevant des associations. À vrai dire, en nombre d'organisations, ce sont les associations qui sont de très très loin les plus nombreuses. Et ce sont toutes trois des organisations avec un statut particulier qui renvoient à des principes, un homme, une voix, une lucrativité limitée et puis sans doute aussi des formes d'utilité sociale.
L'économie sociale et solidaire, ce sont des gens qui cherchent à apporter des réponses à des besoins et qui, pour s'assurer de la durée de la réponse à ces besoins, se donnent un certain nombre de principes. Au final, ça donne quoi ? Ça donne surtout un modèle économique qui représente un poids non négligeable dans l'économie et surtout un poids qui reste à découvrir et qui, dans les prochains mois, sera défini par la loi, ce qui est nouveau dans notre pays. C'est une première étape, cette reconnaissance, elle ne limite pas parce que l'économie sociale et solidaire se renouvelle en permanence en fonction des besoins des gens, mais c'est quelque chose qui est appelé à connaître un développement parce que il y a une stabilisation de sa définition, on va dire.
Quels sont les grands acteurs de l'économie solidaire en région Nord-Pas-de-Calais ?
Par grands acteurs, on pourrait réfléchir en disant le nombre d'emplois. Alors, il y a des très grandes banques coopératives, il y a de très grandes mutuelles, il y a de très grandes associations. Mais au-delà de cet aspect en termes d'emploi, je pense que les grands acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est notamment tout le réseau associatif qui fait du lien social, qui fait de la proximité, qui permet de faire en sorte que le quotidien des habitants de notre région s'améliore. Donc, moi, j'aime pas trop compter l'économie sociale et solidaire uniquement en termes de masse, de volume d'emploi, même si ça compte, hein, attention, on est dans l'économie, entre guillemets. Voilà, ce qui compte, c'est aussi l'apport au quotidien et les richesses qui sont produites et qui ne sont pas comptées comme celles que l'on compte habituellement dans la vie économique.
Et après, je pense qu'au-delà de poser la question des grands acteurs, c'est surtout qu'on puisse se rendre compte que finalement, l'économie sociale et solidaire, c'est dans tous les secteurs d'activité et on peut y avoir, par un biais ou un autre, être en relation avec elle. On peut prendre par exemple le fait de quand on veut consommer, il peut y avoir des biocoop, des associations de maintien à l'agriculture paysanne qui permettent de renforcer le lien entre consommateurs et producteurs. On peut aussi à un moment, quand on est épargnant, si on a la chance de l'être, de pouvoir mettre de l'épargne solidaire dans des clubs d'investisseurs locaux. Il peut y avoir également dans l'utilisation de son ordinateur des logiciels libres qui essayent de se réapproprier un petit peu l'informatique. Donc je pense qu'au-delà des grands acteurs, c'est vraiment se dire « j'y suis confronté par différentes choses dans mon activité quotidienne de salarié, de consommateur, d'épargnant, à des acteurs de l'économie sociale et solidaire ».
Donc en région Nord-Pas-de-Calais se développent des politiques concernant justement le développement de cette économie sociale et solidaire.
Effectivement, il est important de noter que la région Nord-Pas-de-Calais était une des premières régions à l'époque, de début des années 2000, à signer un programme régional de développement de l'économie sociale et solidaire avec les deux conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais, l'État par le biais de la Directe et la Caisse des dépôts. Donc là, on a une volonté très forte dès le début des années 2000 sur se dire comment on peut avoir une politique régionale mêlant différents types d'institutions pour développer l'ESS. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y a effectivement de nombreuses politiques à un niveau territorial, là, au niveau de communautés d'agglomération, communautés urbaines, communautés de communes, où on va avoir aussi des politiques spécifiques à l'ESS. Et au-delà de cet aspect spécifique en disant on a une politique dédiée à l'économie sociale et solidaire, ce qui est important de voir, c'est qu'aussi de plus en plus d'autres politiques s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, parce que l'économie sociale et solidaire est transversale. Elle va aussi toucher les questions d'environnement, elle va aussi toucher les questions d'aménagement du territoire, d'éducation populaire, ce qui fait qu'on peut être lié, et d'ailleurs nous on essaye de promouvoir ça, sur un territoire entre une politique économique, une politique de l'agriculture, une politique de l'environnement, une politique du logement, et c'est bien dans toutes ces dimensions-là que les financeurs et que les institutions publiques essayent de soutenir l'économie sociale et solidaire.
L'économie sociale et solidaire est-elle une alternative ou une forme d'accompagnement de l'économie traditionnelle ?
Ça, c'est une question assez centrale et en même temps à laquelle on n'est pas capable de répondre à un instant T. On est obligé de considérer un mouvement. Il va de soi que si on regarde l'histoire, la manière par laquelle l'économie sociale et solidaire s'est construite dans le temps, elle n'avait pas ce nom-là, mais lorsqu'on regarde l'ensemble du mouvement coopératif et associationniste qui se sont développés dès le 19e siècle, ces organisations étaient en prise dans le mouvement social et avaient pour but quand même d'être des forces de transformation sociale pour lutter contre un certain nombre d'injustices et contre un certain nombre d'inégalités qu'était en train de produire le capitalisme émergent. On retrouve véritablement ce mouvement aujourd'hui, c'est-à-dire un mouvement en prise avec l'idée que ce qu'il faut d'abord faire, c'est être une force de transformation économique. Hein. Et donc, de ce point de vue, je rejoins ce que disait Véronique Branger tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire se veut, de ce point de vue, très transversale. Ce n'est pas un secteur qui serait applicable uniquement à quelques activités bien ciblées, bien particulières. Il faut reconnaître néanmoins que la situation actuelle étant celle d'un état social qui se désengage de plus en plus d'un certain nombre de fonctions qui, pendant, disons, les Trente Glorieuses, étaient de sa responsabilité, fait qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire apparaît, en tout cas aux yeux de certains, comme un champ, comme un acteur qui vient réparer un peu les dégâts produits par le capitalisme et qui tire une partie de sa légitimité des dégâts justement que produit ce capitalisme. Et de ce point de vue, il est sans doute moins transformateur, il apparaît comme un complément à d'autres acteurs, en particulier l'acteur des collectivités territoriales, des pouvoirs publics ou de l'État.
Dans la région, on assiste aussi parfois à certains glissements de missions, par exemple autour des personnes âgées. Il y a un certain nombre de services qui, au départ, étaient mis en place par des associations et qui passent dans le domaine complètement privé, capitaliste. Ce glissement, vous l'avez perçu ? Est-ce que vous résistez à cela ? Comment vous adaptez ?
Alors, c'est le risque, à mon avis, de toutes celles et ceux qui veulent être précurseurs. L'économie sociale et solidaire, c'est souvent des réponses qui sont des problèmes qui se posent et l'absence de réponses, donc des gens qui s'organisent pour voir comment ils peuvent trouver des solutions. C'est le B.A.B.A. En partant de là, on s'aperçoit que, bien entendu, ces gens-là, en se rassemblant et en posant des problèmes qui n'ont jamais été posés au niveau politique ou au niveau institutionnel, trouvent des solutions qui sont innovantes. Et bien entendu, si elles sont rentables, il y a des entreprises qui se disent, on peut peut-être faire un petit peu de business avec ça. C'est la vraie question. Et sur le domaine que vous évoquez, qui est celui des services à la personne, aujourd'hui, il y a des logiques différentes. En effet, il y a des entreprises qui cherchent à faire à dégager du profit sur ce plan-là, et d'autres qui essaient de maintenir une logique associative. Pour autant, statut n'est pas toujours vertu, comme on dit, et il y a besoin de réinventer et de revivifier en permanence le projet initial qui est de répondre à des besoins de manière non lucrative et désintéressée. Et donc c'est une tension qui est continue, et cette tension-là, elle est aussi la tension, j'ai envie de dire, de tout projet ou de toute structure démocratique. Il faut toujours repenser le sens de ce qu'on fait et de ce pourquoi on est rassemblés pour le faire. C'est vrai pour les associations dans les services à la personne, c'est vrai pour les mutuelles, c'est vrai pour certaines banques coopératives. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui innove, ce n'est pas une économie sans risque pour son fonctionnement démocratique, tout comme par des questions de potentielle récupération de ce qu'elle a pu inventer. Mais c'est le champ de l'économie, hein.
Sur cette question spécifique de l'aide à domicile auprès des personnes âgées et de son immersion dans les services à la personne de manière plus large, il faut d'abord noter que historiquement, les précurseurs dans le domaine de l'aide à domicile des personnes âgées, des personnes fragiles et dépendantes, enfin les précurseurs ont été les associations, sans conteste, depuis le début du XXe siècle et certains même sans doute plus tôt. Et que là, il y a eu un rôle extrêmement important joué par l'État dans l'ouverture de ce champ d'activité d'action sociale aux entreprises lucratives. Ce n'est pas simplement des associations qui ont à un moment donné pensé qu'il y avait de la lucrativité possible sur ce champ, c'est l'État qui à un moment donné dit pour que vous deveniez professionnel, il faut ouvrir le champ aux entreprises lucratives. Et là, il y a une responsabilité quand même particulière au plan Borloo, au plan de développement des services à la personne en 2005, qui a, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi, mais qui a vraiment ouvert ce marché, produit de la concurrence là où il y avait de la coopération, laissé entendre qu'il pourrait y avoir de la lucrativité faite sur le dos de la dépendance. Et là, c'est vraiment une remise en cause entière de ce que l'on appelle l'État social, garant d'un certain nombre de droits pour les citoyens.
Donc effectivement, je souscris à ce que vient de dire Florence hein, sur la responsabilité aussi qu'a la puissance publique à un moment de décider comment elle souhaite ou non soutenir l'économie sociale et solidaire, pas en tant que telle, mais parce qu'effectivement c'est plutôt des acteurs qui essayent de répondre à un bien-être commun et c'est bien pour ça qu'il faut les soutenir. Et après, pour revenir plutôt peut-être à un niveau acteur, effectivement on se rend compte qu'on a été souvent innovateur et qu'après ça a pu être récupéré par le champ lucratif privé. Et qu'il est peut-être temps de se poser la question, et de toute façon les acteurs se la posent de plus en plus, de la coopération pour pouvoir travailler ensemble, que ce soit sur la mutualisation de moyens, mais aussi sur différents modèles économiques, et de plus en plus sur les territoires, des associations de services à la personne, mais aussi d'autres types d'acteurs essayent de travailler ensemble pour pouvoir se conforter et agir vraiment sur le territoire en coopération, non pas en concurrence. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire de plus en plus et qui va aller en augmentant. Et sachant que quand je parle de coopération territoriale, j'entends aussi coopération avec des collectivités, avec aussi d'autres acteurs de l'économie locale. Parce que tout à l'heure, on parlait de capitalisme dominant. Mais du coup, il ne faut pas oublier dans la coopération territoriale la question aussi de l'économie locale, des TPE et des PME qui peuvent souvent être assez proches de ce que peut le porter. Et c'est vrai que cette notion de coopération, je disais qu'elle devient de plus en plus importante et ce sera par exemple le thème du prochain RIUES, rencontre interuniversitaire de l'ESS, qui aura lieu chez vous effectivement en mai sur l'Université de Lille.
Question, j'allais dire, complémentaire. Est-ce que le système de marché, notamment d'appel d'offres, a gêné, amélioré, rendu transparente les choses?
Alors là, je vais avoir un propos assez ferme. Dire que les appels d'offres permettent la transparence, je suis assez fondamentalement contre cette idée. Il n'y a qu'à se voir le nombre de scandales qu'il y a de corruption à travers des appels d'offres. Ou des entreprises l'emportent d'ores et déjà avant même que l'appel d'offres soit lancé. Et je ne pense pas qu'on puisse dire de l'autre côté que la subvention notamment empêche la transparence ou qu'elle soit clientéliste. La subvention, c'est quoi ? C'est un mode de contractualisation qui est choisi entre une collectivité et des acteurs parce que les acteurs associatifs ont une capacité d'initiative, c'est-à-dire qu'ils vont repérer des besoins sur le territoire, ils vont essayer d'y répondre en imaginant de nouvelles réponses, en essayant de travailler avec les habitants. Et c'est bien cette liberté-là qui est extrêmement importante dans le mode de la subvention, parce que par appel d'offres, une collectivité passe une commande. Donc ça peut effectivement être le cas sur certains projets, mais sur le monde associatif dans son ensemble, si la collectivité passe des commandes, les associations ne sont plus que des prestataires et ne peuvent plus mettre en œuvre cette capacité d'innovation. Et du coup, on perd vraiment en réponse à un mieux vivre ensemble que peuvent apporter les associations. Donc nous, il nous semble extrêmement important de lutter contre une logique de plus en plus prégnante d'appel d'offres, notamment au niveau des associations, mais de défendre le fait qu'une collectivité peut choisir, et ce n'est pas que technique, le mode de contractualisation et de contact qu'elle aura avec les associations.
Ce système d'appel d'offres, il est voulu par l'Europe ou il est pratiqué un peu partout en France naturellement ?
Il y a une tendance à se protéger juridiquement, on va dire, d'un certain nombre de collectivités qui se disent « on va faire un appel d'offres, comme ça on ne nous accusera pas de favoritisme », pour être très clair. Sauf que ce que certains peuvent penser récupérer en sécurité juridique, ce qui est pas sûr du tout, hein, eh bien on le perd en capacité d'initiative et en capacité à construire dans la durée un certain nombre de relations et d'ancrage local qui permet à un tissu économique, à un lien social de se développer dans la durée. Et pour le coup, il y a bien entendu une volonté de clarifier un certain nombre de choses, et on est aussi dans une période où chaque euro d'argent public dépensé doit être justifié, et c'est bien normal parce que c'est l'argent des citoyens. Maintenant, on arrive dans une situation où aussi, en termes d'évaluation, parfois pour dépenser un euro en termes d'action, il faut un euro pour aller chercher cet euro et un autre euro à dépenser pour justifier comment on a dépensé cet euro. Et malheureusement, on tue parfois l'initiative associative par des mécanismes qui sont censés la rationaliser. Et donc, il y a besoin d'un juste équilibre entre, d'un côté, une simplification, d'autre part, une responsabilité vis-à-vis de l'utilisation des deniers publics. Mais ce n'est certainement pas le tout appel d'offres qui pourra trouver la solution, bien au contraire.
Oui, j'ajouterais que le fondement un peu conceptuel de l'appel d'offres, c'est de considérer que la coordination des acteurs n'est jamais mieux que lorsque les acteurs sont en concurrence les uns par rapport aux autres. Or, tout cela repose sur des idéologies qui sont issues de la théorie économique dominante. Et il me semble qu'il faut vraiment mettre bas à cette idéologie parce que, comme l'ont dit mes collègues, il est évident qu'il y a des possibilités de travailler en non-transparence, même en étant dans des contractualisations par appel d'offres. Je voudrais rajouter un tout petit élément, c'est que tout dans la loi cadre proposée par Benoît Hamon et qui est en cours de discussion après avoir été validée par le Sénat aujourd'hui n'est pas formidable. Mais en tout cas, il y a cette volonté de relégitimer justement le financement par la subvention, ce qui est assez inédit finalement dans l'histoire législative française. Et je pense que de ce point de vue, c'est assez courageux, et ce que certains pourront considérer comme un dispositif archaïque, je le considère comme quelque chose au contraire de très très innovateur, de mettre en avant l'idée qu'on peut contractualiser entre différents acteurs sur une autre base que simplement le mode concurrentiel.
Pour conclure, les possibilités de développement de l'économie sociale et solidaire en région, est-ce qu'elles vous paraissent encore importantes ? Est-ce qu'il y a de la marge ?
Effectivement, il y a beaucoup de possibilités de développement de l'économie sociale et solidaire. Hein. Tout à l'heure, je citais déjà le fait de pouvoir travailler en coopération sur des territoires avec aussi deux acteurs économiques qui pourra certainement permettre de se développer. Il y a effectivement une vision de plus en plus importante dans les territoires d'une économie plurielle, c'est-à-dire effectivement comment il peut y avoir aussi de l'économie sociale et solidaire sur les territoires, et encore une fois avec de fortes convergences sur des travaux par rapport à des filières qui se disent effectivement peut-être que maintenant on peut aller aussi sur l'économie sociale et solidaire alors qu'on n'y pensait pas. Je pense à des choses comme auxquelles on pense pas immédiatement, les industries créatives, les créatives et culturelles, ce type de choses. Et peut-être un autre point qui est extrêmement important et qui, pour le coup, on a aussi des prémices dans la loi dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la question effectivement des cessions d'entreprise, parce qu'il y a effectivement énormément au niveau de TPE et de PME de cessions par des dirigeants qui y s'en vont. Et je pense qu'il serait important de pouvoir se dire que les salariés peuvent reprendre ces entreprises, parce qu'ils sont tout à fait en capacité de gérer cette entreprise, et que là, ça repose certainement un vivier qui est extrêmement important pour le développement de l'économie sociale et solidaire.
Donc, toujours pour la région ?
Dans la région Nord-Pas-de-Calais, donc, il y a un terreau favorable au développement de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a des dispositifs, qu'ils soient financiers ou dans l'accompagnement, qui permettent à celles et ceux qui veulent développer des projets ou créer des activités d'avoir des interlocuteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des besoins. Et ça, on va plutôt le regretter, parce qu'on est dans une région où malheureusement le taux de chômage est important, où malheureusement les besoins sociaux restent très très forts, et avec un lien social qui est en train, malheureusement je trouve, plutôt de se déliter. Donc les réponses et l'idée d'inventer des réponses qui passent par l'économie sociale et solidaire, c'est une voie qui apparaît logique. Et donc, quand on regarde la conjonction de ces deux constats, bien entendu, il y a des initiatives qui doivent être prises, qui doivent être consolidées, qui doivent être soutenues. Et donc, il y a tout un champ de développement de l'économie sociale et solidaire. Mais comme on le disait également, l'économie sociale et solidaire n'est pas que réparatrice. Elle façonne aussi la société d'aujourd'hui et surtout la société de demain. Donc il n'y a pas de limite à l'économie sociale et solidaire. Elle ne doit pas en avoir. Au contraire, ce qui compte, c'est maintenant ce qu'on le voit de plus en plus, c'est-à-dire le discours politique, l'appropriation par les citoyens de l'économie et de la réponse à leurs besoins, qui est le plus sûr moyen du développement de l'économie sociale et solidaire, au-delà de ce que pourront faire tous les grands réseaux de l'ESS en Nord-Pas-de-Calais, qui, par ailleurs, c'est aussi une chance, il faut le dire, sont très développés pour soutenir ces initiatives et cette prise en main de l'économie.
Donc cette force qu'on constate en région, est-ce qu'elle est portée également nationalement et internationalement ?
Ce que je voulais dire, c'est que si l'économie sociale et solidaire, c'est un mouvement de transformation sociale, ce que nous sommes tous les trois à penser, alors évidemment, son développement, il est infini, comme le disait tout à l'heure Antoine Détourné, puisque le capitalisme, dans sa forme actuelle, n'est que des mesures écologiques, des mesures sociales. Et de ce point de vue, il y a des besoins immenses à assouvir, sans doute envisagés sous l'angle suivant. Comment préserver un certain nombre de biens communs que nous avons sur nos territoires et que nous souhaitons sans doute léguer aux générations futures. Et je voudrais terminer sur une note optimiste, c'est que une étude est en train d'être réalisée par un certain nombre d'étudiants qui sont engagés dans des formations en économie, dans lesquelles ils montrent que ils sont de plus en plus en attente justement de formations qui leur permettent de réfléchir à la fois aux dégâts du capitalisme, ce qui n'est pas du tout ce que l'économie leur offre actuellement, et en même temps qu'ils soient en capacité de leur fournir un certain nombre de dispositifs pour mieux penser ce que peut être l'économie sociale et solidaire, à la fois comme mouvement économique et mouvement social.
Voilà, vous savez maintenant tout ou presque sur l'économie sociale et solidaire et ses enjeux pour la société. Un grand merci à nos intervenants Florence Jani Catrice, économiste à Lille 1, Véronique Branger, directrice de l'APES, et Antoine Détourné, délégué général de la Chambre régionale de l'économie solidaire Nord-Pas-de-Calais. Pour en connaître davantage, n'hésitez pas à visiter l'espace de réflexion du labo de l'ESS sur le site www.lelabo-ess.org. C'était une émission de René Lavergne de Radio Campus.